Elle pense comme ça aussi. Il s'est passé au moment de Pourim, où on est passé de la mort à la vie, quoi. C'est plus grand que de passer de l'esclavage à la liberté. Et pourtant, on n'en fait pas tout un plat du récit de ce qui s'est passé à l'époque de Pourim. On lit la Megillah, bon, c'est très carré. Il n'y a pas de mitzvah de sa père de Geoulat Pourim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je crois, que le récit de Pourim tel qu'il est fait, c'est le récit d'un événement. Il y a eu un événement très important, mais un événement, c'est-à-dire un point, si vous voulez. Alors que la sortie d'Égypte, ce n'est pas un événement, c'est un processus. C'est tout un processus. On a déjà vu que on pouvait en fait regarder le processus, regarder la sortie d'Égypte comme une naissance et du coup comme effectivement une naissance à l'intérieur d'un processus qui mène à la naissance. Ça veut dire que il n'y a aucune difficulté, d'ailleurs c'est déjà fait par, je pense, des Mekoubalim en tout cas, et aussi des Midrashim, qui disent qu'on peut considérer Yosef comme en quelque sorte la graine de départ ou la cellule de départ, la conception, si vous voulez, et le galout lui-même, l'exil lui-même, comme le temps de la grossesse, les makot, comme justement les contractions du procès de l'accouchement, et la sortie d'Égypte comme l'expulsion, comme l'accouchement lui-même. Et en fait, c'est bien un processus parce que, bon, c'est la description de cette continuité, mais elle continue, puisque comme vous savez, les Bnei Israël doivent encore, pour vraiment sortir d'Égypte, ils doivent encore passer la mer. Et donc, le processus de Kriyat Yamsouf est encore un élément dans la naissance. Et il y a un élément après l'expulsion, en quelque sorte, qui est le fait que l'enfant va commencer à respirer, etc. On peut même dire que les Bnei Israël sont sortis de l'élément liquide, quoi. Ils ont appris à sortir de cet élément liquide, d'avoir été dans l'élément liquide et dans les sorties, dans la mesure où ils étaient dans la mer, mais ils étaient quand même au sec. Ce processus de naissance, comme un processus, si vous voulez, en fait, c'est quelque chose d'encore un peu plus grand. Si on veut regarder le paradoxe dans le kiddush qu'on fait, quand on fait kiddush à Rosh Hashanah, ce qu'on dit lors du kiddush, on parle de la création du monde, et dans le kiddush de Rosh Hashanah, on dit Zecher l'Yetziat Mitzrayim, souvenir de la sortie d'Égypte. Comment est-ce qu'on peut mentionner la sortie d'Égypte dans le kiddush de Rosh Hashanah? Et justement, probablement qu'il faut entendre que c'est sûr que ce que nous appelons sortie d'Égypte s'appelle comme ça parce que c'est l'élément concret, en quelque sorte. Mais le processus, c'est un processus qui commence dès la naissance de l'humain, en fait. C'est quoi le processus lui-même? C'est un processus où, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé un monde et il a créé les hommes. Et il a créé des hommes qui sont capables de reconnaître Hachem comme roi. Ce processus, il commence dès l'émergence, dès la naissance de l'être humain, dès Adam Harishon. Et bien entendu, il y a des conditions pour que la reconnaissance d'Hachem ait vraiment lieu. des conditions qui concernent l'humain, l'être humain en question. Donc Adam Arichon, il s'est tout de suite disqualifié pour ça, dans la mesure où il ne reconnaît pas Hachem comme roi, puisqu'il transgresse tout de suite ce qui lui a été prescrit. Et il y a des essais en quelque sorte. Quand il y a tout un processus qui passe par l'idolâtrie, en fait, cette idolâtrie que commence avec la génération d'Énoch, c'est la cinquième génération après Adam Arishon, où on a commencé l'idolâtrie, en quelque sorte, où ils ont inventé l'idolâtrie. Je vous ai dit déjà dans notre chiour que Rambam, on est obligé, si on considère l'humanité telle qu'elle est décrite dans la Torah, la naissance de l'humanité telle qu'elle est décrite dans la Torah, alors l'humanité n'a pas commencé par l'idolâtrie. Parce que Adam Rishon, il connaissait Hachem. Les premières générations, elles connaissaient bien Hachem. Et c'est lentement que on s'est mis à donner de l'importance, même pour des raisons presque compréhensibles, où on a donné des cadeaux aux serviteurs d'Hachem, en sachant pertinemment que ce qu'on visait, c'était Hachem, mais comme on ne savait pas très bien comment on pouvait lui manifester quoi que ce soit, donc on a essayé de passer par ses serviteurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de faire ce que finalement, Caïn et Abel l'avaient fait. Oui, ils ont fait un corban. Ils ont compris qu'on pouvait exprimer quelque chose. Ils ont la reconnaissance à Hachem par le biais d'un corban. Ils ont voulu ce processus d'approche, s'approcher. Alors, que ce soit avec du végétal pour Caïn, avec de l'animal pour Abel. Mais bon, ils ont inventé ça, mais petit à petit, on a fait autre chose. Et puis, après, on a donné une espèce d'autonomie au soleil, aux planètes et à tous les phénomènes physiques. Ils sont devenus les idoles. Et puis, ensuite, c'est l'homme qui a voulu devenir Dieu, en quelque sorte. Ça, c'est la tour de Babel. Les hommes ont voulu nasser la Nouchem. On va remplacer Hachem, on va se donner nous-mêmes. Notre programme, on va faire, ils savent qu'il y a Hachem, mais ils vont faire la guerre, c'est-à-dire on va imposer notre volonté, notre projet. Et donc, cette tentative, elle a échoué, parce qu'Hachem l'a fait échouer. Et à ce moment-là, vous vous souvenez, à ce moment-là émerge Abraham, qui lui dit, moi je vais faire le. Je vais faire ce qui incombe à l'homme. Hachem va le tester, il va l'accepter. Et puis, ben ça non plus, ça ne va pas vraiment bien marcher. Parce qu'il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, et les Shvatim. Et puis ensuite, ensuite ça n'a pas marché. Et il y a eu le. Alors, est-ce que ça, ben, il y a eu un problème qui a fait qu'ils sont arrivés en Égypte, qui était vraiment l'endroit pourri dans le monde. Mais que les Bnei Israël aient dû passer par une phase d'esclavage, ça avait déjà été annoncé à Avraham Avinu dans Brit Ben Abtarim. Dans l'alliance qu'il a eue pendant qu'il s'est endormi, là, la fameuse alliance entre les morceaux, Hachem lui avait dit que ses descendants seraient esclaves, etc. Sauf que quand Hachem a annoncé ça, il a dit deux choses. Il a dit, finalement, le peuple qui les a réduits en esclavage, je vais le juger. Et les Bnei Israël vont sortir de cet esclavage avec un grand butin. Donc, on va revenir sur cette notion de butin. Alors, le jugé, c'est les Égyptiens qui sont jugés, avec les, en particulier avec les Makot, et ça culmine avec la mort des premiers-nés égyptiens. Il y a donc un récit de la sortie d'Égypte. Ce récit, il est très important et il est annoncé dans la Torah, il est prescrit, mais c'est pas que Hachem nous a dit, vous allez raconter ce que j'ai fait. Mais Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, je ne l'ai fait que pour que vous le racontiez. C'est une chose absolument fondamentale. D'ordinaire, quand les gens racontent leur guerre ou quand ils racontent quelque chose, l'événement a eu lieu, quelque chose a eu lieu, et puis ensuite on le raconte. Mais ce qui était important, c'est ce qui a eu lieu. Après, on en fait le récit. Ici, chez nous, c'est exactement le contraire. Hachem dit, je ne fais les choses que pour que vous puissiez les raconter. Donc l'essentiel, c'est de le raconter. Et du coup, quand on nous dit de le raconter, on te dit, plus tu racontes, mieux ça vaut. Et comment on peut plus raconter? De quoi raconter plus? Qu'est-ce que ça veut dire que, comme on le dit dans la Haggadah, Rabbi Akiva et la crème des Tanaïm se trouvent au même endroit, ils passent toute la nuit à parler de la sortie d'Égypte. Est-ce qu'ils, finalement, ils devaient la connaître un peu, déjà depuis le jardin d'enfants, on leur a raconté la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils se sont racontés pendant toute la nuit? C'est une des mitzvot de la nuit du Seder, en fait. Bon, il y a Minatora, il y a la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Il y a la mitzvah de manger de la matzah et du maror. Et il y a une autre mitzvah qu'on ne pratique pas, Minatora, qui est de manger le Korban Pessah, que nous ne pouvons pas pratiquer puisqu'on n'approche pas le Korban en ce moment. Mais c'est la mitzvah de la soirée. Alors, ce récit-là, il a des règles. La grande règle, c'est que ce récit, il est sous forme de questions-réponses. Il est fondamental qu'il y ait des questions. Il est fondamental que ce récit soit présenté comme une réponse à des questions. Et alors, ce récit, on nous dit, tu dois le faire. Ce récit, tu vas répondre à ton enfant, aux questions que ton enfant va poser. Et tu dois faire ce récit, non pas comme le récit de ce qui est arrivé à tes ancêtres, mais tu dois considérer que c'est comme si tu faisais le récit non seulement de ce qui t'est arrivé, comme si ça t'est arrivé, mais on dit un peu plus. Dans le texte, il dit, Hayav Adam, lirot et atzmo keilu hu keilu, comme s'il était sorti d'Égypte. Mais après, quand on parle betseti mimitsraïm. Quand je suis sorti, c'est pas comme si j'étais sorti, mais on va dire betseti. Alors, il faut arriver à raconter comme si, etc. Mais allez, en vérité, le comme si, c'est seulement une étape. De façon idéale, on doit considérer que je sors d'Égypte. Ce soir-là, je sors d'Égypte. Sort d'Égypte parce que ce moment-là, cette nuit du 15, cette nuit du 15 Nissan, c'est une nuit qui s'appelle Zman Chérouteinu, le temps de notre libération. Ça veut dire, ce n'est pas le temps où nous avons été libérés. C'est le temps de la libération. C'est à tout moment, c'est le temps de la libération. À tout moment, ça veut dire chaque année, quand arrive le 15 Nissan, il y a un processus de libération. Si vous voulez, comme il y a un processus de croissance au printemps. Donc, arrive le printemps, ce n'est pas simplement parce que les gens vont prêter leur culture d'une certaine manière à ce moment-là, c'est le temps qui fait que à ce moment-là, ça pousse. À ce moment-là, ça passe par une certaine phase. Eh bien, à ce moment-là, c'est un temps où nous sommes libérés, et donc ce qui nous incombe, c'est de se libérer à ce moment-là, qui est un temps pour être libéré. C'est-à-dire, il s'agit d'être en phase avec le temps. Comme il faut être en phase, comme le cultivateur, il doit être en phase avec le printemps. Il faut bien qu'il fasse au printemps ce qu'il doit être fait au printemps. S'il fait au printemps ce qu'on fait en automne, ou s'il ne fait pas ce qu'on doit faire, ben, ça ne va pas pousser. Donc, on doit se considérer comme sortant d'Égypte. Donc, l'Égypte, en fait, c'est un moment, c'est un endroit où on a été concrètement esclave, mais d'une certaine manière, puisque c'est un processus, alors on ne peut pas sortir d'Égypte sans qu'il y ait un processus. Donc, il y a chez nous aussi un processus qui doit nous amener au moment de la nuit, dans cette nuit du 15, à pouvoir sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'en réalité, de la même manière que le mois d'Eloul est un mois de préparation pour Rosh Hashanah, quelque part, le mois de Hadar est la première moitié de Nissan, c'est un temps de préparation pour la sortie d'Égypte, pour que je puisse sortir d'Égypte. Et c'est vrai en permanence. Halakhiquement, la seule chose qu'on fait, qui n'est pas spécifique d'ailleurs, c'est que pendant ces 30 jours qui précèdent, on enseigne, on apprend les halakhot de Pessah. C'est déjà une préparation. Quelque part, ça nous met dans l'ambiance de Pessah. Mais l'ambiance de Pessah, ça ne doit pas évidemment se résumer au nettoyage, quoi, quelque part, mais ça doit comporter un travail de réflexion. Et si on veut sortir d'Égypte, il faut prendre conscience qu'on est en Égypte. Si tu veux te libérer, il faut que tu comprennes que tu ne l'es pas libre. Si tu te considères déjà comme libre, ben, tu ne peux pas te libérer. Et donc, il faut faire un travail intérieur pour arriver à comprendre ce que c'est que d'être esclave. Alors, nous, toute l'année, on sait que on n'est pas libre et que, d'accord, puisque tous les matins, on fait une bracha, dans les Birkat HaShachar, on fait une bracha, Shelo Asani, je crois comment vous dites, Aved, il ne m'a pas fait esclave, Shifra, ou quoi. Ça veut dire que Baruch, ça veut toujours dire amplifier, n'est-ce pas? On demande à Hachem d'amplifier mon état de non-esclave. on ne demande pas d'amplifier ma liberté. Le problème, c'est de nous aider à sortir de l'esclavage. C'est vrai que si on dit ça tous les matins, normalement, on devrait avoir une certaine idée de ce que c'est que l'esclavage, parce que sinon, qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Que tu lui demandes, tu es déjà libre. Ça veut dire qu'on est amené, on est invité à réfléchir à cette condition-là qui est la nôtre et de comprendre en quoi nous sommes esclaves. Alors, aujourd'hui, on n'a pas tellement, on ne se sent pas vraiment esclave. J'ai juste pensé que peut-être que le fait que Pourim soit avant Pessah, pas dans la chronologie, ni même dans le calendrier des mois, mais concrètement, c'est juste avant Pessah. Bon, en vérité, Pourim, c'est dans le dernier mois de l'année, et Pessah, c'est dans le premier mois de la nouvelle année, point de vue-là. Mais malgré tout, on voit Pourim comme juste avant. Or, qu'est-ce qu'on peut, dans cette idée-là, ce à quoi on peut penser, c'est que, vous vous souvenez, on en a parlé à la question de savoir pourquoi est-ce qu'à Pourim, on ne récite pas le Hallel. Et une des réponses, c'est, les Chachamim, ils n'ont pas voulu instaurer qu'on dise le Hallel à Pourim, parce que la première phrase qu'on dit dans le Hallel, c'est Hallelu Avdei Hashem. Louer Hachem, serviteur d'Hachem, ou esclave d'Hachem. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas dire de nous-mêmes que nous sommes Avdei Hachem. Pourquoi? Parce qu'on est encore sujet à l'Achashverosh. Donc, de qui on parle? On parle des Juifs, à ce moment-là. La reine, c'est une Juive. Le grand vizir, c'est un Juif. Et les Juifs viennent d'obtenir le droit de se faire respecter, en tout cas parmi les goyim. C'est ces gens-là qui disent, on ne peut pas dire qu'on sert Hachem, puisqu'on est encore sujet à l'Achashverosh. Ils ne sont pas sujets à l'Achashverosh, soumis à des corvées, à des comme ça. Bon, c'est sûr qu'il a pris, comme on dit à la fin de la Megillah, il a mis des impôts à l'Achashverosh. Donc, on voit très bien que c'est conduit en roi, il met des impôts. Donc il paye des impôts. Mais bon, tout le monde paye des impôts. Mais quand même, donc déjà, savoir quand on est sujet de, même d'un souverain, même si en fait les Juifs sont presque au pouvoir là-bas, même si c'est formel, on ne peut pas dire qu'on est Avdei Hashem. Parce que être Eved d'Hashem, ça veut dire, en réalité, n'avoir aucun maître à aucun niveau autre qu'Hachem. Si, tout ce qui concerne Hachem, c'est toujours complètement exclusif, c'est-à-dire uniquement par rapport à Hachem. Donc, quelle que soit la dépendance dans laquelle on est, même si elle est très légère, on ne peut pas vraiment dire qu'on est Avdei Hachem. Et donc là, on peut toujours dire à. On est parce que Akate Avde Achashverosh Anan, parce que nous sommes encore Avadim d'Achashverosh. Donc ça, c'est une idée un petit peu sur qu'est-ce que c'est que cet esclavage dont demande à Hachem de nous aider à sortir. Donc, parce qu'on n'est jamais complètement sorti. Le processus, il dure. Il va durer jusqu'à la fin des temps. Bon, on sera toujours dans un état qui relève à un certain niveau, on doit dire que c'est un esclavage. Toute situation dans laquelle on n'expérimente pas le fait de ne dépendre que d'Hachem, c'est une forme d'esclavage. La liberté, elle existe. Il existe des gens. Ils vivent avec une émouna forte et qui véritablement pensent que les choses ne dépendent que d'Hachem, pour eux, ils n'ont de dépendance que par rapport à Hachem. Hachem a donc donné cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, c'est-à-dire développer toute cette idée de libération que représente la sortie d'Égypte. Une des caractéristiques de ce récit, je vous rappelle que ce récit qui forme l'Agada de Pessah, on ne sait même pas qui en est l'auteur. Bon, c'est une espèce de puzzle avec toutes sortes d'éléments comme ça. Avec, je vous ai dit, la structure, ça doit être question-réponse. Un autre élément, c'est que ça doit aller du négatif vers le positif. C'est-à-dire, on commence le Seder en disant Avadim Hayinu, nous étions esclaves, et on va vers la libération. Donc, on va du négatif vers le positif. On va de la nuit vers le jour. Et puis, dans la Haggadah, il y a une mise en scène du questionnement en présentant quatre Arbabanim, les quatre fils, qui quatre façons de poser les questions. Et il y a celui qui, quand il pose des questions, il est à la table du Seder. Il est considéré comme, on appelle le rachat. C'est pas le pire parce que il y en a qui sont même pas à la table du Seder. Mais lui, il est à la table du Seder, mais il dit, mais c'est quoi ce que vous faites là? Quoi ces pratiques là? Et alors, dans la Haggadah, bien sûr, tout ça s'est construit avec des versets, des morceaux de versets qui sont pris. Alors le Père répond à cela. Il répond, Bavurze, Asa Hashem li, donc, c'est pour cela, le mot Zé dans la Torah, c'est toujours quelque chose. Ça veut dire on montre du doigt. Bah, vous, c'est-à-dire ce que tu dis là, c'est quoi là, votre truc, bon, à cause de ça. C'est pour ça qu'Hachem m'a fait sortir d'Égypte. Tout ce qu'Hachem nous a fait pour nous faire sortir d'Égypte, c'est pour ça. On a dit, comme Hachem dit, j'ai fait les Makot pour que vous les racontiez. Et tous les signes que j'ai manifestés en Égypte, c'est pour que vous fassiez ce que vous faites là, ce soir-là. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait ce soir-là? On appelle l'aile à Seder. C'est la nuit d'un ordre. Seder, c'est un ordre. C'est un ordre en 15 étapes. Pourquoi 15? Pourquoi pas 14, 16? Certains disent d'abord, moi il me semble la première chose qu'on peut dire, c'est que évidemment c'est réminiscent du fait qu'on est le 15 Nissan. C'est le plus simple. Mais on peut aussi dire que 15, si on l'écrit en lettres hébraïques, ça s'écrit Yud-Ké. Yud-Hé. Yud-Ké, c'est un nom divin. Mais ce n'est pas le tétragramme encore. Mais c'est un nom divin. Et C'est un nom qui est très important dans la mesure où on retrouve ce chiffre 15 et la gématria de ce nom-là. Dans le Beth Amikdash, il y avait des niveaux différents. Et pour passer d'un certain niveau à un autre niveau, il y avait 15 marches. Et quand les Kohanim passaient d'un niveau à l'autre par ces 15 marches, sur chacune de ces marches, ils chantaient, enfin, ils disaient un des 15 psaumes de David qui commencent par Shir HaMaalot. Enfin, il y en a 14 Shir HaMaalot et un autre Shir LaMaalot, mais bon. Il y en a 15 Shir HaMaalot. Shir HaMaalot, ça veut dire chant des degrés, des marches. Sur chaque marche, il y a un chant. Ça veut dire que quelque part, ce chiffre-là, il indique que quand on veut monter, chaque marche, c'est une marche, on s'élève jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à l'autre niveau, qui est un niveau plus que celui d'une marche, mais qui est un plan, d'accord? Ça passe par jusqu'au 15e. Et du coup, puisque il y a 15 étapes le soir du Seder, ça veut dire que chacune de ces étapes correspond à un degré supérieur à l'étape précédente. Jusqu'à ce qu'on arrive à Nirtsa, jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière partie de Seder, bon, qui est l'agrément, en fait. Nirtsa, ça veut dire, c'est agréé. Notre démarche est agréée. C'est ce que nous disons dans la Shemoneh Esrei. Une fois qu'on a terminé de poser toutes nos demandes, en fait, on dit Retsé. Demande à Hachem d'agréer ce qu'on a demandé. On a demandé, mais est-ce que tu l'agrées? Alors, je te demande spécialement de l'agréer. Alors, ça, c'est très important parce que, tu sais, c'est pratiquement aussi la notion de ratson, de volonté, de ce que tu veux bien, quelque sorte. Et c'est aussi l'expression de ma volonté. Je veux vraiment m'approcher de l'Hachem. Donc, il y a 15 étape. Et donc, c'est pour ces différentes étapes qu'Hachem m'a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire que si je veux vraiment comprendre ce que c'était que de sortir d'Égypte, il faut que je comprenne ce que représentent ces 15 étapes de la soirée du Seder. Alors, il y en a où on comprend relativement bien, facilement, d'autres, on ne comprend pas très bien à quoi ça correspond. Bon, le travail a déjà été fait, d'autres ont déjà travaillé là-dessus, donc on doit aller regarder ce qu'ils ont dit, mais on peut aussi essayer de réfléchir par nous-mêmes durant cette soirée. Bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais là? Alors, dans le récit de la sortie d'Égypte, puisque la sortie d'Égypte est présentée toujours comme la sortie de l'esclavage. Hachem, dans les Aseret HaDibrot, quand il se présente, il dit « Anokhi Hachem Elokecha » qui t'est fait sortir d'Égypte de l'esclavage. Mais curieusement, dans le récit de la sortie d'Égypte, dans la Haggadah, si vous voulez, il y a un deuxième récit. Il y a le récit de Il commence, Avadim haïnou le pharaon bemisraïm, nous étions esclaves de pharaon en Égypte, Et si Hachem ne nous avait pas sortis de là-bas, on serait encore aujourd'hui esclaves de... Enfin, en gros. Mais il y a un deuxième récit. Un récit qui commence par Terach. C'est le récit de la sortie de l'idolâtrie. Et puis, comme on raconte l'état d'esclavage, on raconte aussi dans ce deuxième récit l'état d'idolâtrie. Avraham Avinu, il n'est pas né juif, si vous voulez. Il est né dans une maison idolâtre. Il a été éduqué comme idolâtre, par des parents idolâtres. Il y a dans chez les Goïms, il y a des gens qui prétendent qu'ils ont des origines d'Ine, ou il y en a qui pensent qu'ils sont sortis de la cuisse de Jupiter, etc. Nous, en vérité, la naissance du clan d'Israël, c'est qu'est-ce qu'on était? Esclaves. Bon, ce n'est pas glorieux, on n'a pas. Bon, c'est vrai qu'on avait les avots, mais la naissance est effectivement. Dans le récit de la sortie d'Égypte, d'une certaine manière, on ne parle pas de ce qu'il y a eu avant Yosef, en quelque sorte, avant Jacob. On ne parle pas comme si tout avait commencé avec Yosef, qui est nourricier, qui fait descendre sa famille. Tout va très bien parce qu'on est la famille, c'est la famille du vice-roi d'Égypte. Et puis ensuite, ça se gâte parce que les Juifs, bon, ils bougent un peu trop, et les Goïms, ils prennent ombrage, ils ont, à tort ou à raison, ils s'imaginent que les Juifs sont des traîtres, éventuellement, ils pourraient s'allier avec des ennemis, etc. Et donc, ils les réduisent en esclavage. Commence comme ça, c'est là. Ouais. La sortie de l'idolâtrie, elle commence par Terach, le père d'Abraham, qui était un fabricant d'idoles, etc., qui est devenu persona non grata là-bas à cause des agissements de son fils. Comme Abraham s'est mis à casser des statues, etc., le père, il en a souffert, visiblement, et il est parti. Il est parti, et curieusement, il pouvait pas rester à Ur, d'accord, mais pourquoi il, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en direction d'Eretz Israël, en réalité. Il est parti et il est allé jusqu'à Haran. Il n'est pas rentré en Israël, il était resté un peu au nord, en Syrie, quoi. Et puis ils sont restés là-bas et il avait pris toute sa famille, y compris Abraham, Sarah, Lot, etc. Ils sont restés assez longtemps là-bas. Et Abraham et Sarah ont répandu leurs paroles, quoi. Quelque part, ils ont fait beaucoup d'élèves. Et puis un jour, Hachem a dit à Abraham, va-t'en. Et Abraham est parti. Il a abandonné son vieux père. Il a abandonné son père. Il est parti pour, il savait pas où, mais en réalité, il a simplement continué dans le sur le chemin qu'avait pris son père. Bon, si tu continues un peu depuis Haran, ben, tu entres en Eretz Israël. Donc c'est assez curieux parce que on dit tu dois quitter ton pays, ta patrie, etc. Mais il l'avait déjà quitté avec son père. Pourquoi? Terach est parti là-bas. Certains disent que Terach, on dit déjà sur Terach qu'il était à Ivri, et que peut-être que Terach est un descendant de Hever. C'est-à-dire, Hever, c'est le petit-fils de Shem. Et Shem, c'est le fils de Noach, un des antédiluviens. Peut-être que, en fait, Terach était un étranger à Ur. Et donc, quand il est parti, ben, il est retourné chez lui, quoi. En direction de chez lui, quoi. On raconte, la sortie de l'idolâtrie, en quelque sorte. Et d'ailleurs, les bénis Israël, quand ils sortent d'Égypte, ils sont plus esclaves, mais ils sont encore idolâtres. Au passage de la mer, ils sont plus esclaves, mais ils sont encore idolâtres. Les anges, quand Hachem sauve les bénis Israël de la mer, et il noie les Égyptiens, les anges disent à Hachem, mais pourquoi tu sauves ceux-là et tu noies les autres? Pas de différence. Ceux-là sont idolâtres et ceux-là sont idolâtres. Donc, la sortie d'Égypte n'est pas une complète sortie de l'idolâtrie, en fait. Alors, je dirais, on voit bien le veau d'or, mais le veau d'or, ce n'est pas vraiment de l'idolâtrie, en tout cas pas au début. Mais peut-être qu'effectivement, ils sont pas sortis complètement d'idolâtrie, mais peut-être après l'histoire de la mer, peut-être, voilà, ils ont été influencés. Et au Sinaï, Hazal disent que quand on accepte la Torah, c'est comme si on niait l'idolâtrie. Quand ils ont accepté la Torah, ils ont nié l'idolâtrie. Mais ensuite, ils sont retomber dans l'idolâtrie, dans la version qui est pour nous idolâtre, c'est-à-dire ce que je vous ai dit là, au temps d'Enoch, où ils ont fait des cadeaux en quelque sorte au soleil, tout en visant Hachem. Nous, ça nous est interdit. Au goyim, cette façon-là, c'est pas interdit, pardon, au goyim. Et en fait, la faute des Bnei Israël, ce n'est pas le sujet, mais la faute des Bnei Israël, elle est dans le fait qu'ils ont considéré au fond d'eux-mêmes Moshe comme une divinité. Puisque quand il s'agit de remplacer Moshe, ils disent à Aaron, fais-nous des Elohim, fais-nous des dieux, en fait. Il voulait la outarbé, il voulait des divinités. Et la faute, elle est très très fine. Elle est parce qu'ils ont dit, quand ils ont parlé de la situation, ils ont dit à Ish Moshe, l'homme Moshe qui nous a sortis d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est advenu de lui. Cette phrase-là, c'est l'échec. Parce que ce n'est pas Moshe qui les a sortis d'Égypte, c'est Hachem. Quand ils disent Aïch, Moshe qui nous a sortis d'Égypte, déjà, quelque part, ça a glissé. Ils n'ont pas été capables d'intérioriser complètement que Moshe était bien celui qui a guidé la sortie, mais qui n'a fait que d'être. Il n'était que le prophète d'Hachem, celui auquel Hachem parlait et qui agissait selon les directives d'Hachem.
Pas des situations où on a des signes
Mon cher, là-bas, c'est marqué qu'effectivement, Moshe a reçu la Torah, mais c'est pas lui qui l'a inventé. On dit qu'il a reçu la Torah et il a bien voulu la partager avec les Bnei Israël. Il aurait pu la garder pour lui. Il aurait pu dire, bon, moi, je la garde pour moi et moi, je vous dirai ce que la Torah vous dit, mais c'est tout, mais je vous donnerai pas accès, vous n'allez pas pouvoir vous-même aller étudier la Torah et en déduire, les conduites conformes à la Torah. C'est moi qui vous dirai, il aurait pu dire, il n'y a que moi qui vous dirai, ou mes descendants, ou je sais pas quoi, comme le font les prêtres dans l'idolâtrie, etc. C'est eux qui disent, les dieux nous ont parlé et ils nous ont dit de vous dire comme ça. Mais vous n'avez pas accès directement aux dieux. Les cathos, ils n'ont pas le droit de lire directement la Bible. Bon, c'est le curé qui choisit les morceaux, il les interprète à sa manière, et eux, ils n'ont pas accès. C'est ça le grand problème de la réforme. C'est bien, quoi. Alors, Moshe, ouais. Alors, c'est Moshe, il ne nous a pas donné la Torah, mais il a fait en sorte que le clan d'Israël, on avait parlé de ça quand il a ajouté un jour, le clan d'Israël se donne la Torah. C'est un peu. Alors, les Bnei Israël ils sont en Égypte, dans le récit, ils sont en Égypte et ils souffrent de l'esclavage parce que c'est pas vraiment un esclavage seulement, c'est une vraie torture. La torture, ça, c'est fait pour les empêcher de penser. En Égypte, il y a un galout, il y a un exil en quelque sorte. Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'on parle d'un exil, mais ils sont exilés d'où? Ils sont venus volontairement en Égypte. Ils ont été réduits en esclavage. Ils n'ont pas été exilés par les Égyptiens. Les Égyptiens ne sont pas venus en Eretz Israël les obliger à descendre. Les Israël, Jacob et ses fils, ils sont descendus volontairement, comme on dit à nous, ça pire d'Ibourg, mais Hachem lui a dit, descends, va en Égypte. Quand il est descendu, il n'est pas devenu esclave. Il voulait quand même pas descendre. Et après, Hachem lui a dit, tu dois y aller. Alors, les Bnei Israël, quand c'est devenu insupportable, et Hachem, jusque-là, Hachem n'a pas réagi. Il a laissé faire les choses. Il a laissé les Égyptiens abuser de la position qui était la leur pour faire tout ce qu'ils pouvaient faire de mal aux Bnei Israël, pour aller jusqu'à les empêcher d'avoir des enfants, tuer leurs enfants, etc. Et au bout d'un moment, les Bnei Israël ont crié. Le cri, Isaac, non crié. Et le passouk dit, Hachem avait décidé que maintenant je vais écouter quand il crie. Mais ce qui est important, c'est que les Bnei Israël n'ont pas crié du tout en direction d'Hachem. Le cri, c'était simplement un cri, ça fait mal, quoi. Ils ont crié, aïe, mais ils n'ont pas crié, Hachem et nous. Mais Hachem a validé ce cri. Comme si c'était déjà une prière adressée à Hachem. Une demande à Hachem, sauve-nous. Pourquoi? Parce que Hachem avait décidé qu'il allait écouter. Et pourquoi il a écouté à ce moment-là et pourquoi il n'avait pas écouté avant? Il n'a pas écouté avant parce qu'il voulait qu'il y ait cet exil. Cet exil, il est constitutif. Peuple juif. Donc, c'est comme si, d'après ce qu'on a dit, dans le processus, il faut la grossesse. Bon, c'est une grossesse qui s'est déroulée difficilement. C'était nécessaire. Et Hachem va dire au Israël, en fait, si j'ai écouté votre cri et si je l'ai interprété comme une. J'ai bien voulu l'interpréter comme une prière. Qui m'est adressée en quelque sorte et à laquelle du coup je vais répondre. C'est pas du tout parce que vous souffrez trop. C'est seulement parce que j'avais promis à Abraham que j'allais m'occuper de son peuple. J'ai dit à Abraham que vous allez sortir. Aïe, pourquoi ils sortent maintenant? À Abraham, il avait été dit que les Bnei Israël sont esclaves 400 ans. On est à 200, il y a 210 ans qu'ils sont depuis qu'ils sont en Israël, en Mitzrayim, en Égypte. Il n'y a même pas 210 ans d'exil, hein, d'esclavage. Mais il y a 210 ans qu'ils sont en Égypte. Pourquoi ils sortent maintenant? Ils sortent maintenant parce que s'ils ne sortaient pas maintenant, ils ne pourraient plus sortir. Vous vous souvenez, dans cette fameuse vision où Hachem a annoncé à Abraham que ses enfants allaient être esclaves, avant de parler de ça, Hachem avait proposé à Abraham un choix. Il lui a demandé, est-ce que tu veux pour ton peuple? Et ça se dit de la manière suivante, est-ce que tu veux la mort ou est-ce que tu veux l'exil, l'esclavage? Et Abraham a choisi l'esclavage. Qu'est-ce que ça voulait dire la mort? La mort, ça voulait dire, est-ce que tu veux que ton peuple soit un peuple comme tous les peuples de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'il va éventuellement grandir, peut-être même devenir assez grand, ensuite ben, il va atteindre son apogée, ensuite ça va redescendre, éventuellement il va disparaître complètement, ils vont mourir complètement. Est-ce que tu veux cette trajectoire-là? Ou est-ce que tu veux une trajectoire qui ne monte jamais bien haut, mais qui dure longtemps? Il a choisi, mais si je comprends bien, ça veut dire que l'exil, c'est une forme faible de mort. Le choix, c'était entre deux formes de mort. Une forme de mort après avoir atteint le sommet, etc., ou bien une forme de mort permanente, en quelque sorte, qui est l'esclavage, l'exil. C'est-à-dire, vous n'allez jamais devenir grand. Vous n'allez jamais devenir un grand peuple. Hachem va dire, même dans la Torah, ce qui me plaît chez vous, c'est votre petitesse. Si Hachem avait voulu choisir grand, il aurait choisi les Chinois, ou les Indiens. Les Indes, donc, et pas nous. Nous, on est un tout petit peuple, rien du tout. Donc, c'est une forme, à mon avis, l'esclavage, c'est une forme de mort. C'est une forme de mort puisque tu as un maître qui t'empêche d'être ce que tu veux être. Et de ce point de vue-là, ça, c'est une. L'esclavage, c'est une mort qui est imposée, si vous voulez. Et l'idolâtrie, c'est aussi une mort, mais une mort choisie. Tu as choisi les idoles auxquelles tu vas obéir, mais tu te mets dans les mains de ces idoles. Le culte idolâtre, c'est les dieux, ils veulent ça, donc il faut le faire parce que les dieux le demandent. Tu te mets dans les mains des idoles. Donc, tu es mort. Tu as une partie de toi qui ne peut pas s'exprimer. Et donc, si vous voulez, ça continue. Moi, j'ai déjà dit que dans la halakha, si quelqu'un tue volontairement, il est passible de mort. Il faut les témoins, etc. Donc, si on tue volontairement, on est passible de mort. Si on tue par inadvertance, par accident, on est passible de quoi? De galoute, d'exil. Les fameuses villes refuges. Donc vous voyez bien, c'est une forme faible de mort. Il y a la mort pour celui qui a tué volontairement l'autre. Il y a celui qui, quand il l'a tué par inadvertance, il a une forme faible. C'est la même chose. C'est logique que ce soit. Non, simplement, c'est une forme faible de mort. Donc, d'une certaine manière, là aussi, quand les frères ont envoyé Yosef en esclavage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commué sa peine. Ils l'avaient condamné à mort et ensuite ils l'ont envoyé en esclavage. De nouveau la même chose. Donc, tout le problème de la sortie d'Égypte, d'une certaine manière, c'est une accession à la vie. C'est pour ça que l'image de la naissance, c'est une très bonne image. Bon. Et de ce point de vue-là, on comprend bien qu'on est aussi en récit concernant la sortie de l'idolâtrie. Comme je vous ai dit, l'idolâtrie aussi, c'est une forme de mort. Donc, il y a une espèce de gradation, si vous voulez. Vous avez la mort. Et vous avez l'esclavage et vous avez l'idolâtrie. C'est tous des formes de mort, plus en plus mort. C'est pour ça qu'on appelle les corbanotes pour les idolâtres, qui sont donnés aux idoles, on appelle ça zifremétime. C'est-à-dire quelque chose qui est tué pour les morts, où on a tué les morts. D'une certaine façon, le processus, le récit de la sortie d'Égypte est un récit de l'accession à la vie. Quand on demande qu'Hachem agrée, c'est-à-dire, sois d'accord, donne-moi la vie, quoi. On demande comme un agrément à la vie. Donc ça a commencé par un cri. Au moment où c'est un cri, mais c'est presque un cri primal, quoi. C'est presque le cri de l'enfant qui, son premier cri quand il naît. Bon, le Bnei Israël crie. C'est un cri, c'est tout, c'est. Chez un enfant, c'est simplement la réaction biologique. Mais c'est presque biologique. C'est pas l'enfant, il n'est pas en train d'appeler sa mère à ce moment-là. Les Bnei Israël, ils ne sont pas en train d'appeler Hachem. Mais une mère qui entend son enfant crier pour la première fois, elle se sent mère. Pardon, je vous laisse pour en parler. Mais bon, même un père, il entend ça, c'est une expérience. Donc c'est une espèce de cri primal. Et pour faire sortir les Bnei Israël de Mitzraïm, d'Égypte, Hachem a choisi quelqu'un. Le Rambam, il va plus loin et dit: Hachem a fait Moshe. C'est intéressant. Il utilise ce mot. Ou Assa Moshe. Il a fait Moshe. Il a fait ce personnage incompréhensible, n'est-ce pas? Ce personnage-là, c'est un enfant qui est né prématurément. C'est d'être né prématurément que ça l'a sauvé. Il a sauvé. Parce que pendant ce temps-là, ses parents n'ont pu le garder. Il a grandi un peu. Et ensuite, quand il a fallu le mettre dans son petit navire dans les joncs, là, qu'il a été récupéré, non, il est récupéré par une princesse. Il est nourri par sa mère, mais ensuite, il grandit et il devient prince héritier d'Égypte. Ce juif-là, enfant juif, il devient prince héritier d'Égypte. Adopté par la fille de Pharaon, comme il n'y a pas d'autres garçons visiblement, ou il y en a d'autres, mais je ne sais pas pourquoi, c'est lui qui devient le prince héritier d'Égypte. Tout à coup, oui, il reconnaît ses frères quelque part, et il fait tout de suite quelque chose qui le rend persona non grata en Égypte. Il est obligé de fuir. Et puis, il est obligé de fuir parce qu'il a tué l'Égyptien et donc il a été dénoncé par des Juifs d'ailleurs. Et ensuite, il a 60 ans de trou dans son CV. parce qu'il a 20 ans à ce moment-là, on le retrouve, il a 80 ans. Alors, on sait un tout petit peu, après le Midrash, ce qui s'est un peu passé avant. Juste avant, il était en prison. Où il était en prison? Chez Yitro. Le Midrash dit que Yitro l'a mis en prison. Quand il est arrivé chez Yitro et qu'il a raconté à Yitro pourquoi il était là, qu'il a raconté sa vie, il a raconté qu'il avait tué un Égyptien, Yitro, il l'a pris, il l'a mis dans un trou. Pour y crever d'ailleurs. Et il est sauvé par celle qui va devenir sa femme. Il est nourri en cachette par Sipora, une des filles d'Yitro, qui lui sauve la vie. Donc, il a une mère. En fait, il existe grâce à sa petite sœur, sa mère. Il est sauvé par la princesse. Et ensuite, il est sauvé. On ne connaît pas ce qui s'est passé par la suite, dans le trou là en question. 60 ans, on ne sait pas ce qu'il a fait. Après, il est sauvé par Tzipora. Vous parlez de femme. On pourrait presque dire, Moshé, c'est un être à naissance multiple, quoi. Il est né de toutes sortes de manières, dans toutes sortes de situations, avec différentes femmes. Une sœur, une mère adoptive et une femme. Hachem fabrique Moshe. Et en quelque sorte, Hachem lui tombe dessus, en quelque sorte, et puis il lui dit, tu vas aller sortir les Bnei Israël des gens. Et qu'est-ce que fait Moshe? Ben, il dit non, non, j'y vais pas. Pourquoi il n'y va pas? Pour deux raisons. Une raison personnelle, c'est-à-dire qu'il ne veut pas marcher sur les plates-bandes de son frère Aaron. Et ça va lui coûter cher à Moshe. La deuxième raison, c'est que Moshe ne voulait pas faire sortir les Bnei Israël à ce moment-là. Je vous ai dit, les Bnei Israël, ils sont sortis prématurément. Et d'être sortis prématurément, semble-t-il, ça a eu comme conséquence qu'il allait falloir rattraper ces années d'esclavage qu'ils n'ont effectivement pas vécues. Éventuellement, les quatre galouillottes qui vont être les quatre galouillottes dans lesquelles les Bnei Israël vont vivre, ils apparaissent comme la suite de galoute d'Égypte. Mon cher Avenu, il voulait que Hachem donne la force au clan d'Israël. Je vous ai dit, j'ai pas été assez clair, les Bnei Israël sortent prématurément parce que, comme on l'a dit, s'ils ne sortent pas maintenant, il n'y a personne pour sortir. Alors, l'explication, c'est, qu'on donne en général, c'est l'explication de Harizal. Harizal, le Kabbalah, il explique qu'on avait touché le 49e degré d'impureté en Égypte. Et si on avait touché le 50e, 50e c'est la mort, ça veut dire, en tout cas spirituel, ça veut dire, si on avait touché le 50e degré, personne ne serait sorti. Déjà comme ça, il n'y a que 4, que 80, que 20, 20% des Bnei Israël qui sont d'accord de sortir d'Égypte. Si on attend encore un peu, il n'y a plus personne. 80% veulent rester en Égypte. Oui, d'accord, mais non, peut-être pas pour l'idolâtrie, mais malgré l'idolâtrie, ils veulent rester quand même. Ça veut dire que Hachem leur propose quelque chose, et pour eux, c'est trop difficile à ce moment-là. On ne nous dit pas tellement pourquoi ils ne veulent pas sortir. Ils ne veulent pas. Mais c'est presque compréhensible. Qu'est-ce qu'on leur propose? Sortir dans le désert? Personne n'est jamais sorti d'Égypte. Un peuple va sortir dans le désert, c'est impensable. On va les crever dans le désert. Ils préfèrent même travailler. Surtout qu'il ne faut pas oublier que quand ces gens-là disent on ne veut pas sortir, on est dans une période où depuis un an, les Bnei Israël ne travaillent plus. Durant toute la période des Makot, des plaies, des 10 plaies, qui durent un an, les Bnei Israël ne travaillent plus pour Pharaon. Donc ça va très bien. Ils sont peut-être des citoyens de seconde zone, mais d'accord, d'accord. Mais ils ne travaillent même pas, ils ne sont même plus esclaves. Ils sont formellement esclaves, mais ils ne travaillent même pas. Donc s'ils sont ici imaginés, bon, d'accord, on va rester comme ça. C'est mieux que de prendre le risque d'aller mourir dans le désert. Donc on est sorti parce que sinon il n'y avait plus personne pour sortir. Donc les Bnei Israël n'avaient pas la force. Mais sortir les Bnei Israël, c'est un tel miracle que, dit Moshe, au lieu de faire ce miracle-là, je te propose un autre miracle. Donne-leur la force pour résister encore 190 ans. Pour compléter les 400 ans, et puis à ce moment-là, on sort définitivement. Je sais pas, je connais pas de la raison pour laquelle Hachem n'a pas accepté. Mais Hachem n'a pas accepté. Hachem n'était pas d'accord. Donc Moshe, il a dû sortir les Bnei Israël au moment où Hachem avait décidé qu'ils allaient sortir. Et ils ne pouvaient pas. Si Hachem ne leur fait pas ce cadeau de les aider à résister, ils ne peuvent pas rester, ils ne peuvent pas résister. En Mitzrayim, il y avait autre chose qui était en exil. C'est ce qu'on appelle l'exil de la parole. On ne peut pas parler quand on est dans un état d'esclavage aussi terrible. Au point que l'on en est à chercher son souffle, alors on ne peut pas parler. Il n'y a pas de parole. Mais c'est toute l'Égypte qui est un pays de... Il n'y a pas de parole. La parole. La parole, c'est la parole avec laquelle Hachem a créé le monde. Paro, il considère qu'il n'y a pas de créateur. Il pense qu'il s'est fait tout seul. Paro, il dit, je me suis fait tout seul. Le Nil, c'est mon Nil. Pourquoi il parle du Nil? Parce que le Nil, c'est la garantie de, c'est le nourricier de l'Égypte. Les crues du Nil, c'est ça qui donne à l'Égypte la possibilité de manger. Pourquoi aujourd'hui les Égyptiens crèvent de faim? Parce que grâce au barrage d'Assouan. C'est un barrage d'Assouan, et donc il n'y a plus de crues du Nil. Ils n'ont plus cette nourriture qui venait quasiment toute seule. Paro dit, le Nil, c'est moi qui le fais. Ce Paro-là, il dit ce que le Paro de Yosef n'osait pas dire. Mais pourquoi personne n'a interprété le rêve de Paro, sauf Yosef? Parce qu'il ne disait pas la vérité. Vous vous souvenez? Il ne leur dit pas que dans son rêve, il était au-dessus du Nil. Ils peuvent rien comprendre. Et lui, il n'osait pas le dire. Et ce paro-là, lui, il le dit. Il dit, le Nil, c'est mon Nil. Je suis au-dessus du Nil, c'est mon. Un exil de la parole. Chazal disent que là, alors il y a eu ce cri, mais qui n'est pas encore une parole. C'est un cri. Alors, peut-être que les Bnei Israël ont commencé à se parler quand ils ont reçu cet ordre de Moshe Rabbeinu. Hachem avait donné à Moshe Rabbeinu de leur dire d'emprunter. Souvenez, vous devez emprunter des kélim les uns aux autres. Donc, quand tu vas emprunter, tu es bien obligé de parler. Mais bon, c'était une parole purement technique, quoi. Faites-moi ta casserole. Quand est-ce que les Bnei Israël parlent? Une parole, la vraie parole, une parole qui est adressée à Hachem. Marqué, les Bnei Israël étaient au bord de la mer. Que derrière eux, il y avait les Égyptiens qui allaient. Ils avaient rattrapé, ils voulaient les ramener en Égypte, et devant eux, il y avait la mer. De côté, il y avait les bêtes sauvages, le désert, etc. Marqué, à ce moment-là, ils ont prié. Chazal disent, Tafsu umnot avotam. À ce moment-là, ils ont repris le savoir-faire de leurs ancêtres, c'est-à-dire la prière. Les avots, ils sont considérés comme des inventeurs de prière. Avraham Shacharit, Yitzhak Milcha et Yaakov Arvit ont inventé la prière. La prière à Hachem. Les Bnei Israël, tout à coup, ils ont trouvé en eux des ressources qui leur ont fait retrouver ce savoir-faire qui était le savoir-faire de leurs ancêtres. Ils ont prié à la mer. Et au moment où ils prient, Hachem leur dit, ce n'est pas le moment de prier. Il y en a un qui continue de prier, c'est Moshe. Moshe continue de prier. Hachem me dit, pourquoi tu pries? Dis aux Bnei Israël d'avancer. Le gars lui dit, c'est plus le moment de prier, c'est un moment de faire confiance à Hachem. Avancer, ça veut dire que tu rentres dans la mer. Mais bon, on va se noyer. Oui, vas-y, avance. Quand ils ont eu de l'eau jusqu'au nez, la mer s'est fendue. La mer se fend, ils passent à pied sec. Mais la mer, elle ne s'est pas fendue. On a l'impression, quand on lit le texte, que les murailles, enfin il y a des murs d'eau, comme des murs de pierre, qui se sont dressés. Mais les Khazal disent par ailleurs que c'était plutôt des canaux. Alors, on peut imaginer, c'est monté comme ça, et puis aussi, au mur, et il y a eu 12 canaux. Un canal pour chaque tribu. Ça veut dire que chacun a passé la mer, chaque tribu a passé la mer à sa façon. C'est une expérience. Et ils n'allaient pas la vivre tous de la même manière. Parce que toutes les expériences importantes, on les vit avec ce qu'on est. Donc chaque tribu a des caractéristiques particulières qui font qu'ils sont capables de vivre tel et tel événement de telle et telle manière. Ça fait partie de l'héritage de la tribu. Je ne connais pas de détails sur la façon dont chacun a vécu ça. Et je ne sais pas non plus si on n'est pas de texte qui dise qu'il y a eu une suite, c'est-à-dire que cette tribu-là, elle s'est conduite par la suite de telle et telle manière, parce qu'ils avaient passé la mer de cette manière-là. Ces parties-là, si je vous la racontais, il faudrait que je m'invente. Pas suffisamment d'imagination. Tout cas, je ne la connais pas. Il y en a peut-être. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des midrashim que je ne connais pas là-dessus. Il y a tellement de midrashim. Je pense que ça a eu une importance, mais je ne sais pas laquelle. Ils ont passé la mer. Et après la mer, par rapport à cet exil de la parole, donc ils ont commencé à sortir avant d'entrer dans la mer, quand ils sont sortis de la mer. Alors d'abord, quand ils sont sortis de la mer, ils n'ont pas eu l'impression d'être complètement sauvés. Parce qu'ils ont pensé que nous, on est remontés de ce côté-là, mais les Égyptiens, ils sont montés ailleurs. Il a fallu qu'Hachem fasse en sorte que la mer recrache les cadavres des Égyptiens pour qu'ils le croient. À ce moment-là, ils ont fait confiance à Hachem et à Moshe. Et à ce moment-là, ils ont chanté. Chanter, c'est le, si vous voulez, c'est le summum de la parole. Parce qu'en plus de la poésie qu'il y a dans ce chant, il y a en plus la musique. Eux, ils se sont contentés de chanter. Donc la musique, c'est la voix humaine, c'est le chant. Après eux, Myriam, elle a pris les femmes, elle les a fait chanter aussi la même chose, sauf qu'elles, elles avaient des tambourins. Et donc, elles avaient, non seulement pour moi, elles ont chanté aussi, mais elles ont sont accompagnées avec les tambourins. Il y avait une musique, pas seulement le chant, mais encore une musique par les mains, quoi. Les mains aussi ont fait de la musique, les tambourins. Les Chazal font remarquer, justement, que bien sûr, les femmes ici, moi, elles avaient, ils ont trouvé des marchands ambulants qui ont vendu les tambourins. Ils avaient pris les tambourins, ils avaient des tambourins en Égypte, elles les ont gardés. Ils ont pris leurs tambourins avec. Ça veut dire qu'elles ont compris qu'il y aurait un moment où on allait pouvoir jouer du tambourin. Donc elles ont eu confiance que les hommes n'avaient pas. D'ailleurs, le texte n'est pas exactement le même. C'est-à-dire qu'elle, elle les a fait chanter chantons, et eux, ils vont, on chantera. Chez les hommes, c'est au futur, elle, c'est au présent, on chante. On y est déjà. Les hommes, on va y être, mais les femmes, elles y sont déjà. Et donc, ce chant, vous voyez, c'est le summum de la parole. Voilà, la parole existe maintenant. Les Bnei Israël sont capables de parler à Hachem, de dire la louange d'Hachem en chanson, enfin en chantant. Donc c'est un chant qui est inspiré, puisque comme vous savez, ils ont chanté avec Moshe Rabbeinu. Il y a une discussion comment ça s'est passé, mais a priori, on n'a pas distribué des partitions. Hein. Ils ont chanté. Ça chantait chez eux de la même manière que chez Moshe Rabbeinu, d'après ceux qui disent qu'ils ont tout chanté avec Moshe Rabbeinu. Il y en a d'autres qui disent qu'ils ont fait seulement. Moshe Rabbeinu l'a chanté toutes les paroles. Et eux, sans arrêt, sur chaque parole, ils répétaient simplement Ashir al Hashem. Ils répétaient Ashir al Hashem, c'est un espèce de refrain. Je chantais pour Hashem, je chantais pour Hashem. Donc cette sortie d'Égypte, vous voyez, c'est aussi l'accession à la parole. L'accession à une parole dirigée vers Hachem. Une parole qui remercie Hachem, qui dit la louange d'Hachem. La prochaine fois que les Bnei Israël vont vraiment parler, ça va être pour réclamer. Ça va être Amara. Amara, ils ont respecté parce que l'eau était amère. Et là, du coup, c'était pas une parole. Ils auraient dû demander. L'eau est amère, rend cette eau buvable. Non, ils ont commencé à dire, on va retourner en Égypte, etc. Mara. Mais à la fois, c'est quand même quelque chose de très important parce que c'est sur un mode un peu négatif, mais à cet endroit-là, ils reçoivent les premières mitzvot. Ce ne sont peut-être pas les mitzvot exactement comment on va les recevoir par la suite, mais ils ont déjà reçu les premières mitzvot, Shabbat, Kibboud Av va'em, Parah Adumah, ça ils ont reçu à Mara. Ce qui fait que au Sinaï, la caractéristique de ce qui s'est passé au Sinaï, ça n'est pas de recevoir des mitzvot. Donc ça, ils avaient déjà reçu. C'est autre chose. C'est avoir un statut, c'est leur nouveau statut. Le statut de Metsuvé Veosé, celui qui a reçu des mitzvot et qui maintenant est astreint à les faire. Ce fait que peut-être que les mitzvot de Mara, je ne sais pas s'ils étaient vraiment obligés de les faire, ou si c'est des dévoilements comme les mitzvot que Abraham Avinu a fait. Lui, il avait, son corps il a produit les mitzvot, mais il n'était pas obligé de les faire. Il a compris que c'était bien de les faire. C'est pour ça que Yaakov Avinu pouvait épouser deux sœurs, etc., faire des choses, ou Amram épouser sa tante, etc., toutes les choses qu'on n'a pas le droit de faire d'après la Torah. Comme eux, ils n'étaient pas encore astreints, ils n'avaient pas reçu la Torah, ils n'étaient pas astreints encore à cela. Voilà, on va s'arrêter là.